de santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes.
En partenariat avec l'Agence Régionale de la Santé et la Région Bretagne.
C'est la pression de la dernière année, jouer son avenir professionnel. On est vraiment surchargé.
Avoir des responsabilités en stage, est-ce qu'on est fait pour ça? Est-ce qu'en fait, on ne doit pas changer de voie? Est-ce que la peur de ne pas réussir?
Imagine ceux qui ont un vrai travail à côté pour financer leurs études aussi.
Puis on se remet en question tout le temps, on a envie de plaire. J'étais très très angoissée de ne pas réussir. J'ai un peu perdu confiance en moi, mais...
Je sais pas si ça fait presque alcoolique, mais...
À être adulte, à avoir des responsabilités, et ouais, ça a été trop vite, je crois.
Bienvenue à tous dans Enjeux de santé, le magazine dédié à la prévention santé des jeunes adultes de Radio Campus Rennes. Les quelques mots que vous venez d'entendre sont tout droit tirés de notre dernière émission concernant l'isolement et le surmenage des étudiants. Nous avions rencontré Sarah et Florian, deux étudiants en master à l'université Rennes 2, ainsi que le psychologue Gilles Clinchard pour aborder ces thématiques. Le récit d'expérience de ces deux étudiants nous avait permis de voir que la sensation de surmenage, ou plus communément de stress, était intrinsèquement liée à la vie étudiante. Pourquoi ? Parce que le stress désigne l'ensemble des réactions de notre corps et de notre psychisme dans le but de s'adapter à des situations nouvelles. Les situations nouvelles ne sont certainement pas ce qui manque lors des études, bien qu'elles ne soient pas identiques pour tous et pas vécues de la même façon. De l'arrivée sur un nouveau territoire à l'apprentissage d'une autonomie nouvelle, en passant par l'angoisse des examens, le stress est omniprésent dans nos vies quotidiennes. L'enjeu est de saisir le moment où celui-ci devient pathologique et nous mène à adopter certains comportements dommageables sur le long terme. Malbouffe, repli sur soi, isolement ou encore consommation excessive d'alcool. Quand vient le moment de gérer son stress, différentes options se présentent à nous. Encore faut-il les connaître. Cette semaine, Enjeux de santé s'adresse donc aux étudiants en leur présentant différents dispositifs universitaires permettant de gérer les problématiques sous-jacentes aux situations de stress incontrôlables. Nous nous sommes rendus au BAPU, Bureau d'aide psychologique universitaire, structure située au 11 boulevard de la Liberté. Discret par son éloignement géographique du campus, le BAPU reçoit des étudiants de tout âge afin d'approfondir leurs problématiques psychologiques. Retrouvons Daniel Olive et Claude Védélier, tous deux psychiatres, ainsi qu'Alain Leboété, psychologue.
Alors d'abord, ce qui est important, je pense, de savoir pour les étudiants, c'est que c'est une structure qui est issue de la volonté des étudiants. Ça s'est créé dans les années 50, après la guerre, à un moment où la santé des étudiants faisait partie des grands problèmes de santé publique et où les étudiants, par l'intermédiaire de leur syndicat, ont monté, d'abord de façon bénévole, des dispositifs où les étudiants pouvaient être écoutés. Parce qu'à l'époque, on s'était beaucoup préoccupé de la santé physique des étudiants et une enquête avait montré que finalement... C'était pas ça le problème, c'était plus les préoccupations, la santé psychique, le malaise qui déjà, donc c'est pas d'aujourd'hui, était le principal problème finalement pour les étudiants. Pourquoi l'âge des études qui paraît le moment, le meilleur moment de la vie, est aussi un moment particulièrement délicat, parfois à traverser pour certains. Qui ramène à peut-être la première chose, c'est à se découvrir autrement que qu'on ne pensait. C'est une sorte de découverte qui parfois surprend et qui peut amener à traverser un peu difficile. Ça amène à se poser beaucoup de questions souvent et peut-être ce qui peut faire obstacle et qui amène souvent les étudiants à nous rencontrer, c'est que ces moments de transition où il s'agit d'affirmer un choix... Ça va se faire en tension avec les choix des parents, les idéaux, la façon dont on avait rêvé sa vie. Et souvent, c'est l'inhibition, le sentiment d'infériorité, l'idée d'échec, l'angoisse. Quand même, c'est le facteur, c'est le motif le plus fréquent de consultation, c'est l'angoisse. Et donc le BAPU, c'est un lieu où on peut rencontrer des psychologues, des psychiatres, psychanalystes, pour débrouiller, débroussailler un peu, dénouer un peu ce qui paraît vraiment inextricable.
Je voudrais préciser que le BAPU est accessible à l'ensemble des étudiants, que c'est remboursable par la Sécurité sociale et pris en charge complètement par la Sécurité sociale. Ce n'est pas gratuit, mais c'est remboursé par les cotisations que les étudiants payent auprès de leur caisse étudiante. Ceci me paraît important. Deuxièmement, l'équipe se compose à la fois de psychologues et de psychiatres qui font le même travail, c'est-à-dire avec une orientation psychothérapeutique, psychanalytique. Et il est important de pouvoir mettre des mots sur cette souffrance, de pouvoir l'exprimer, de pouvoir prendre de la distance par rapport à elle pour permettre à la personne de trouver un équilibre qui lui permette d'exister dans la vie d'une façon moins douloureuse. Voilà un peu la fonction du BAPU.
Votre question, c'était comment on s'adresse au BAPU aussi. Donc je crois que c'est beaucoup de bouche à oreille qui fonctionne. C'est un ami, une amie. Ça peut être aussi les points santé dans les universités, dans les lieux où il y a des BTS, les écoles, les grandes écoles. Et ça arrive aussi que ce soit un médecin généraliste ou un médecin spécialisé. Et à quel moment la décision se prend de venir consulter? Donc là, c'est très multiple. Ça peut être dans un moment d'urgence, quand même, une urgence plutôt à parler, en fait, à prendre la parole sur ce qui arrive. Ça peut être aussi dans l'après-coup. Parfois, des personnes viennent pour saisir quelque chose qui s'est passé il y a plusieurs mois ou plus un long moment, quelque chose dans une fête qui s'est passé pas comme ils auraient souhaité, ou un décrochage à un moment donné, alors que c'était vraiment, a priori, les études qui les intéressaient, ou, comme tu disais, une rupture amoureuse, ou une discussion serrée avec les parents. Là où la souffrance avait produit un repli, et il y a l'idée que de venir en parler pourra ouvrir un autre horizon, en fait. Et donc des personnes viennent ici parfois pour quelques entretiens, et puis parfois c'est pour entamer un plus long travail. Il y a tous les cas de figure. Le fait que ce soit très intime ce lieu, très confidentiel, nous sommes tous soumis au secret. Je crois que c'est très intime. C'est un lieu dans la ville qui est aussi banalisé, discret. Donc je crois que ça donne les conditions. Donc les gens téléphonent en fait pour prendre rendez-vous. Et ils disent qu'il y a une secrétaire qui est là tous les jours, sauf le mercredi après-midi. Et voilà, qui soit peut donner un rendez-vous, soit prend note de la demande et la personne rappelle quelques jours après pour... En général, le rendez-vous a lieu dans les 15 jours.
Dans les périodes un petit peu dense, au milieu de l'année, il faut parfois attendre un mois, un tout petit peu plus. Mais de toute façon, il sera toujours possible d'avoir un rendez-vous dans un délai quand même raisonnable. C'est important que aussi les étudiants sachent ça. Si pour eux c'est vraiment pressant, il faut qu'ils le disent. On se débrouillera pour leur procurer un rendez-vous dans ces cas-là rapidement. On est sensible à ça, à cette dimension de l'urgence. Un travail peut se faire par tranche, par moment, comme ça, parce que c'est le moment de venir parler, et après, ça pourra revenir, mais c'est pas forcément un travail qui va durer très longtemps. La façon d'exprimer, c'est difficile de savoir même qu'il y a un malaise. Et le malaise va se manifester au décours d'une fête, un passage à l'acte. Finalement, quelqu'un qu'on pensait vraiment bien dans sa peau, toujours prêt à faire la fête, toujours content, va découvrir qu'il va peut-être faire une petite tentative de suicide ou un passage à l'acte, se mettre un peu en danger et attirer l'attention de ses camarades qui vont lui indiquer mais qu'est-ce qui ne va pas. Il faut que ça passe par quelqu'un d'autre, que le malaise soit repéré par un de l'entourage pour qu'il puisse venir s'adresser à nous.
Gilles Clinchard, psychologue au centre hospitalier Guillaume Régnier, nous avait fait part de son expertise la fois passée. Cette semaine, il nous décrit le dispositif universitaire dans lequel il intervient au campus de Rennes 1 et Rennes 2. Vous pouvez le retrouver au bâtiment EREV du campus Rennes 2 et au pôle santé de Rennes 1, à proximité du diapason.
Je suis psychologue dans les consultations sur les facultés. En fait, je fais partie d'un service de soins pour adolescents et jeunes adultes qui dépend du centre hospitalier Guillaume Régnier. En 1999, l'université, les deux universités sont venues dans notre service pour demander si nous pouvions venir renforcer des systèmes de soins qui existaient déjà sur la fac, c'est-à-dire qu'il y a la médecine universitaire, mais Il trouvait que, vu le nombre croissant de demandes de soutien psychologique, ils avaient besoin d'aide. Donc c'est pour ça qu'ils nous ont fait appel, et que depuis donc 1999, dans le service, nous sommes présents sur les deux universités. De nos locaux se trouvent dans le service de santé universitaire, et nous sommes détachés. Donc il y a deux médecins psychiatres, à temps partiel, deux infirmiers psy à temps plein et un psychologue à mi-temps sur les deux universités.
Comment un étudiant peut-il procéder pour venir à votre rencontre et parler de ses difficultés, on imagine diverses et variées?
Il y a plusieurs manières de venir nous rencontrer. La plupart des étudiants viennent nous voir parce qu'ils ont passé une visite médicale à la médecine universitaire, parce qu'il y a une visite médicale obligatoire pour les étudiants de première et deuxième année. Et lors de cette visite médicale, il y a un entretien avec une infirmière sur leur santé au sens large du terme. Et parfois, au cours de l'entretien, l'étudiant peut évoquer des soucis psychologiques, des problématiques, des angoisses, et l'infirmière nous les oriente. Ça, c'est une première manière. Et puis, il y a une deuxième manière. Il y a des gens qui viennent spontanément parce qu'ils ont entendu parler de la consultation, parce qu'un ami est passé, a donné les références. Et puis aussi, on est en lien avec les professionnels de santé, médecins libéraux, le service des urgences en psychiatrie, qui peuvent aussi nous adresser directement des étudiants. Je dirais que moi, mon type d'intervention est classique. C'est à partir de l'entretien, c'est-à-dire c'est à partir de la parole. Le travail que je vais proposer auprès des étudiants, c'est un accompagnement à travers ces entretiens, à travers le surgissement de leurs paroles. Quel sens, petit à petit, donner à ce qui est vécu là, à ce moment-là? Classiquement, on va dire qu'il y a un symptôme. C'est-à-dire, le symptôme, c'est ce qui vous dérange. Donc, ce qui va vous déranger, ça peut être ce que j'évoquais déjà, cette rupture sentimentale qui vous effondre, cet échec aux examens, ou un autre événement, ou un problème alimentaire auquel vous êtes confronté, qui est aussi une demande à laquelle on est parfois... C'est ce qu'on va appeler le symptôme, d'une certaine manière, c'est-à-dire ce qui vous dérange, ce qui vous gêne, ce qui vous, dans votre vie quotidienne, pose plus ou moins de questions, mais qui est là, peut-être parfois depuis un certain temps. Donc, l'approche que je vais proposer, va non pas directement de décoder le symptôme comme ça dans l'immédiat, parce que ce n'est pas du tout dans ma pratique, mais c'est finalement à travers l'histoire, à travers les souvenirs, à travers parfois les rêves, à travers les représentations, de retravailler un peu cette histoire de la personne. Quel regard elle porte petit à petit ? Quel lien elle peut faire aussi entre ce qu'elle vit aujourd'hui et ce qu'elle a vécu? Est-ce qu'il y a des liens à faire ou pas? Donc voilà, c'est parler de leur histoire. Et en même temps, en parlant de son histoire, on est amené aussi à retrouver certains souvenirs qu'on avait peut-être oubliés. Faire des liens avec des situations, faire des associations, retrouver des émotions, retrouver des sentiments. Donc mon travail, ça va être beaucoup autour de ça, quoi, vous voyez ? C'est de retracer à la fois l'histoire, mais aller un peu au-delà de l'histoire et des événements. C'est tout tout l'univers dans le travail proposé, ça va vraiment être considérer chaque personne qui se présente comme un sujet, bien sûr, mais singulier. Il a une histoire singulière. On a des références théoriques, certes, mais chaque individu qui vient en consultation est un être à part entière, singulier.
Retracer l'histoire, c'est souvent, j'imagine, en consultation, prendre son temps avec le sujet. Vous proposez, j'imagine, différents types de consultations qui peuvent peut-être aller du plus spontané au plus long terme. S'agit-il donc d'un élément de votre pratique professionnelle, la longue durée, mais aussi des fois gérer l'urgence sans s'attarder nécessairement sur l'ensemble de l'histoire du sujet?
C'est une bonne question, parce que justement, on a mis en place un dispositif pour répondre un petit peu à cela. C'est-à-dire que je vous ai tout à l'heure dans la présentation que nous avions deux infirmiers psy qui sont là à plein temps. Donc leur rôle, c'est d'accueillir toutes les premières demandes qui se présentent. Donc dans cette variété de demandes, on a aussi des gens qui vont besoin avoir peut-être d'un soutien ponctuel, sans que ça nécessite une prise en charge longue. Ils vont venir 3, 4, 5 fois discuter avec un professionnel qui a de l'expérience, et où ces quelques rencontres vont peut-être suffire à soulager. Il y a également d'autres situations d'urgence quelqu'un qui se présente et qui est vraiment pas bien, où là, le travail de mes collègues, justement, ça va être d'accueillir dans cette urgence cette personne qui va pas mal, mais aussi d'orienter éventuellement. Parce que nous, on nous fait une petite consultation qu'on dit en ambulatoire. Bon, dans certaines situations, ça arrive, on est là aussi pour orienter peut-être vers une hospitalisation, puisque nous faisons partie du centre Guillaume Régnier. Comment dirais-je, on n'est pas prioritaire, mais bon, on connaît un petit peu les structures, donc on peut être amené à orienter aussi quelqu'un. Il y a également tout un travail d'accompagnement psychologique qui peut être sur une plus longue durée. Il y a des étudiants et des étudiantes que l'on rencontre à la consultation depuis plusieurs années. Ouais.
Si la gestion du stress implique pour certains d'exposer leurs problématiques psychologiques, d'autres préféreront sûrement des solutions impliquant davantage le corps. Pour cela, le service interuniversitaire de médecine préventive et de prévention de la santé propose des séances de sophrologie. Jacqueline Guilherme, infirmière au CIMS, anime ces séances et vous en présente les différentes facettes.
Alors, donc, la sophrologie, c'est une méthode, un outil qui regroupe plusieurs techniques de relaxation qui passent par l'ancrage, la respiration, des exercices en fait musculaires, de relâchement musculaire et des pensées positives. Aux gens qui sont stressés, qui ont des soucis de sommeil, ou aussi pour certaines pathologies, la gestion de la douleur, par exemple, pour la préparation aux examens, donc, puis des problèmes plus spécifiques en individuel. Donc c'est un outil qui permet d'obtenir une certaine harmonie entre le corps et l'esprit, Ça peut devenir une certaine philosophie de vie. Ça permet d'apporter en fait calme, paix intérieure, donc du coup d'améliorer en fait notre vie quotidienne. En sophro, il y a beaucoup moins d'exercices physiques que dans le yoga. Mais certains profs, en fin de séance, amènent aussi à la méditation et travaillent beaucoup la respiration aussi. Donc, c'est pas très éloigné non plus hein, quand on est dans la respiration en yoga. J'accueille donc les étudiants le jeudi après-midi là, sur la fac. Et donc par groupe de 10 personnes vraiment maxi, parce que sinon c'est quand même pas très évident. On commence par des ancrages, des exercices de respiration, des mouvements dynamiques. Et ensuite, on passe à des visualisations. Les séances, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ne se passent pas forcément en position allongée sur un tapis. Moi, je préconise, en fait, pour les étudiants, plutôt de faire en station debout ou assise, parce que ça leur permet d'utiliser l'outil plus facilement dans la vie courante, quoi, dans le métro, dans leur salle de cours, etc. Alors, un ancrage, en fait, c'est vraiment bien sentir son corps. Donc là, vous voyez, on est en position assise. Donc là, ce serait vous sentiez bien votre dos, là, bien ancré sur le dossier de votre chaise, votre bassin, vos fessiers bien ancrés sur l'assise de la chaise, vos pieds bien au sol. Et bien percevoir, en fait, l'ensemble de notre corps, là, dans cette position, dans cette salle, ici et maintenant. La posture fait partie d'un des outils en fait que la personne pourra utiliser après si elle sent que ça c'est quelque chose qui lui parle en fait. Hein. C'est pour ça que dans l'ensemble de la séance il y a plusieurs parties comme on parlait tout à l'heure, respiration, mouvement, pensée positive.
Quels sont les différents exercices que l'on peut pratiquer en sophrologie ?
Là généralement je demande aux gens de poser une main sur leur ventre et l'autre dans le creux de leur dos et de se centrer sur cette respiration qu'on fait d'habitude de manière inconsciente, hein, parce que vous voyez, hein, on est là, on respire, on ne s'en rend pas compte. Et là, on se centre sur ce mouvement. Donc c'est-à-dire qu'on définit en fait tout le passage là, de l'air, quoi, bien voir cet air, là, le sentir passer dans nos narines, notre gorge, les poumons. Et après, on pousse un petit peu plus loin encore vers le ventre. Et du coup, là, les mains permettent de sentir ce mouvement de respiration, le va-et-vient de cette respiration, le flux et le reflux de cette respiration. Et la respiration, c'est vraiment quelque chose de très important dans la sophrologie, parce que si on se centre vraiment réellement dessus, c'est vraiment ce qui apporte le calme intérieur, en fait. C'est quelque chose qu'on peut très facilement utiliser quand on est stressé. Il suffit simplement de penser, allez là, je respire tranquillement, et ça apaise souvent rapidement. Sinon, après, on passe à des mouvements dynamiques, donc qui seront pas forcément très faciles à pratiquer dans le métro ou dans une salle de cours. Mais là, ça va être en fait, je m'attarde en fait sur les muscles, je contracte bien, par exemple, mon bras, tous les muscles de mon bras, et après, je relâche en soufflant très fort. Dans plusieurs parties du corps comme ça, et du coup ça permet d'évacuer aussi toutes les tensions en fait qu'on peut avoir.
Quels sont les moments les plus pertinents pour effectuer ces exercices ?
Le moment en fait où ça peut être intéressant, c'est souvent le soir au coucher ou le matin au réveil. Donc là on va partir plutôt le soir en allant se coucher. C'est vraiment penser là que notre corps est allongé là sur ce lit avec comme on disait tout à l'heure, ces différents appuis, là, la tête, le dos, le bassin, les jambes, les pieds. Et ensuite, de vraiment, encore une fois, passer à cette respiration douce, tranquille, pour apaiser, là, pour que toutes nos pensées là, parasites partent un peu plus loin là, et que le calme arrive à l'intérieur de nous. Je parle souvent d'un endroit de calme, en fait, où à un moment donné dans la séance, quand on est passé par l'ancrage, la respiration, les exercices dynamiques, on passe à un moment où les gens, là, sont, on appelle ça l'espace sophroliminal, c'est-à-dire qu'on est un petit peu entre veille et sommeil. Et là, donc, je les amène à se poser dans un lieu de calme, un lieu qui peut être imaginaire ou bien un lieu qu'ils connaissent particulièrement bien, où ils se sentent bien. Et du coup, là, par tout leur sens, vraiment bien se poser dans ce lieu. Ça peut être intéressant aussi de le faire le soir avant de s'endormir.
Quelles sont les principales raisons pour lesquelles les étudiants viennent aux séances ?
Alors, c'est des étudiants généralement qu'on a vus lors de visites médicales et qui ont des troubles du sommeil et qui nous disent qu'ils sont vraiment très stressés pour leurs études, leurs examens. On leur propose une petite plaquette là et d'y réfléchir et de repasser en fait s'ils souhaitent à l'infirmerie pour s'inscrire à des séances.
À quelle fréquence est-il intéressant de pratiquer la sophrologie ?
Ah oui, alors ça c'est une bonne question parce que vraiment c'est un outil qu'il faut vraiment utiliser régulièrement pour que ça fonctionne bien.
D'accord.
Ouais. Donc parce que sinon après on oublie un peu et on peut facilement revoir le stress arriver. Ouais, vraiment oui, c'est un exercice, on pourrait dire un exercice quotidien. Ouais. Être sous la douche aussi, hein. Oui. C'est vraiment aussi, je prends conscience de mon corps, là que j'existe, je respire. Ça aussi, c'est des exercices qu'on peut faire facilement. C'est là aussi, comme je suis installée là maintenant, bien ancrée et tout se passe bien, j'ai ma place, voilà.
N'hésitez pas à vous rendre dans les locaux du CIMS pour obtenir davantage d'informations. Ils sont situés au deuxième étage du bâtiment EREV. Les séances de sophrologie ont lieu chaque jeudi. La thématique de l'isolement intervient le plus fréquemment en parallèle de celle de stress, notamment lorsqu'on l'aborde dans une perspective psychologique. Pourtant, le sentiment d'isolement peut survenir au moment où l'on s'y attend le moins, après un accident par exemple. En effet, l'accident ou la maladie sont susceptibles de ternir nos différents rapports sociaux. Ces situations de handicap temporaire peuvent nécessiter un petit coup de pouce, notamment pour assurer la réussite des études. Les relais handicap des campus Rennes 1 et Rennes 2 pourront vous apporter de l'aide si la situation se présente.
Bonjour, je suis donc Sylvie Saint-Jalme, je travaille au relais handicap de l'université Rennes 2. Pour vous présenter notre service, nous sommes donc deux chargés d'intégration. Donc, mon collègue Erwan Delisle et moi-même. Notre service se trouve bâtiment de la présidence au 5e étage. Donc, nous avons une grande amplitude d'ouverture dans la mesure où nous accueillons le matin et l'après-midi nos étudiants. Nous accueillons donc les étudiants en situation d'handicap, donc avec avis médical vu par le médecin de l'université. Nous les accompagnons dans la compréhension aussi de leur emploi du temps, dans l'aménagement des cours dont ils ont besoin par le recrutement de preneurs de notes.
Imaginons, je suis un étudiant en première année de fac. Au cours de l'année, j'ai un accident lorsque je vais à mon cours de sport favori. Je me retrouve avec un bras cassé, une jambe cassée ou peu importe. Et je suis en situation de handicap temporaire. Comment cela se passe avec votre service pour bénéficier d'un accompagnement ?
Alors, tout comme un étudiant en situation de handicap permanent, il rencontre le médecin qui nous donne un avis médical avec des aménagements à mettre en place. En l'occurrence, preneur de notes parce que cette personne, je suppose, ne pourra assister en cours. Si elle a le bras immobilisé, elle ne pourra pas écrire. Donc, on vient dans cet aménagement, en tous les cas pour les cours, ce qui examine éventuellement va proposer tout de composer sur ordinateur dans nos locaux. Enfin, tout dépend. Hein. Enfin, nous avons plusieurs possibilités, mais bon, on trouve toujours des solutions adaptées à la situation pour que cet étudiant en situation de handicap temporaire puisse aussi pouvoir continuer son semestre et réussir à valider par le fait son année universitaire.
La force de votre service, peut-être, c'est, lorsqu'on parle de handicap, c'est la capacité aussi à personnaliser les réponses que vous apportez aux étudiants, j'imagine.
Tout à fait, puisque chaque cas est traité individuellement et en fonction de la situation à deux, je dirais, situations différentes, des aménagements seront complètement différents. Donc on fait vraiment du cas par cas, on prend le temps. Lorsque l'on accueille un étudiant, on va prendre le temps nécessaire pour bien mesurer ce dont il aura besoin. Ça peut demander de 20 à 20 minutes à une heure lorsqu'on accueille un étudiant. pour bien mesurer avec lui ce dont il a besoin, comment il envisage son parcours. On les reçoit, on les écoute et on oriente, on ne les laisse jamais seuls. On essaye de trouver une solution. Si on ne l'a pas au moment où ils sont avec nous, on leur demande de revenir nous voir pour qu'ils ne se sentent pas seuls, justement, et puis ils rentrent encore plus dans ce système d'isolement dans lequel ils y sont déjà, en fait.
Les étudiants que vous recrutez pour prendre les notes des étudiants en situation de handicap, ce sont souvent des gens qui sont dans les mêmes promotions ou ce sont des volontaires qui se présentent ponctuellement dans vos services ?
Donc, alors, comment nous recrutons ? Donc, nous faisons un affichage sur le panneau d'affichage dans chaque filière avec donc, le maximum d'informations concernant les cours que nous souhaitons avoir. On recrute donc les personnes qui suivent les mêmes cours magistraux et les mêmes groupes TD, de façon à ce que cet étudiant remette donc le support de cours, soit tapé ou manuscrit. Hein. Manuscrit, ils ont accès à un photocopieur dans notre service. Cours tapé, donc ils les envoient par mail et copie à notre service de façon à ce que nous, on imprime si l'étudiant le souhaite. Et aussi communique les informations qui lui auront été importantes et données par l'enseignant, c'est-à-dire un travail à réaliser, un dossier à fournir, une épreuve de contrôle continu, voilà, toutes les informations.
Ça permet à l'étudiant de rester toujours en contact finalement, même s'il ne peut pas l'être physiquement, il reste toujours en contact avec l'actualité de sa formation universitaire.
Tout à fait, c'est le but de tisser, enfin on constitue ainsi des binômes un peu de personnes, et ce qui fait que du coup l'étudiant ne pouvant assister en cours, eh bien ne se sente pas trop déconnecté de l'avancée de l'année universitaire, et lorsqu'il réintègre, qu'il est en mesure de réintégrer, eh bien ne se sent pas trop perdu ou trop seul, et puis en trop grande déconnexion par rapport au rythme voilà, accéléré du semestre.
C'était Enjeux de santé, le magazine Prévention Santé de Radio Campus Rennes, en partenariat avec l'Agence régionale de santé et le Conseil régional de Bretagne.